Mesdames et messieurs, bonjour. La TVT, la télévision nationale, est touchée par des malversations financières. L'ex-directeur épée d'Otse sommet de reverser le trop perçu au trésor public. Un rapport exige également la mutation d'une équipe impliquée dans des malversations. Les recommandations seront-elles suivies? Longtemps demeurée intouchable, la télévision togolaise TVT a enfin passé le test à l'ordre de contrôle de l'inspection générale d'État IGE. Et dans les recommandations de la mission, il est ressorti que la mère des télévisions abritées des charançons, un réseau spécialisé alors dans les malversations financières, a été sommé d'aller voir ailleurs, avec un ancien directeur sommé de reverser une somme de plus de 14 millions de francs CFA. Le sujet est évoqué ce matin par le journal Liberté. Nous allons en parler, nous aborderons d'autres sujets évoqués par des journaux parus dans les kiosques ce lundi 18 novembre 2024. Chers auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous choisir dans cette émission. Club de la presse, la mise en onde est assurée par Michel Coco, Vitor Betomega et la mise en ligne Jérôme Dakoucha. Je suis au micro Pascal Lossou. Vous pouvez suivre cette émission partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéchor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission. Émission à suivre également à travers le monde entier via nos différentes plateformes digitales, notamment notre page YouTube et aussi notre page Facebook, également nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la presse, vous le savez très bien, c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités confrères journalistes. Nous sommes au lundi. Uriel Lignan, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à tous les Togolais de par le monde. Un spécial bonjour, comme d'habitude, à nos parents dans les contrées lointaines. Beaucoup de courage à nos frères et sœurs de la région des savanes.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Je rends grâce à Dieu parce que je me porte bien et je prie également que tous les Togolais se portent bien également, et puisqu'il n'y a pas de prix. Quand on parle de la santé, ça n'a pas un prix. Quand on est en bonne santé, nous sommes appelés à répondre à tous les devoirs. Si on a répondu à tes invitations, c'est parce qu'on est bien portant. On ne peut que rendre grâce à Dieu.
Justement, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre qui a répondu aussi à notre invitation et par la grâce de Dieu, c'est bien Jacques Diakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonjour également à nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui sont en train de nous écouter actuellement, et ceux qui sont dans les hôpitaux, et ceux qui sont actuellement devant leur attelage, et ceux qui sont dans les bureaux, dans les taxis, qui sont en train de nous écouter actuellement. Je souhaite effectivement une très bonne journée à tous ces compatriotes, et passer par ce canal pour présenter les condoléances les plus attristées du Club de la presse à notre confrère Didier Assogba, qui a perdu sa maman. Je voudrais passer par ce canal au nom de tous nos confrères qui sont ici, lui présenter les condoléances les plus attristées. Et Pascal, inviter également nos compatriotes. Il y a un phénomène actuellement qui court le pays, c'est les suicides. Les gens pensent que le fait de se suicider, c'est ça la fin de la peine soit la souffrance qu'ils sont en train de subir. Mais je voulais dire ceci. Vous savez, Pascal, dans la vie de chaque être humain, nous avons ce que nous appelons souvent les hauts et les bas. Et vous savez, Dieu a su bien faire les choses. Il a créé la saison sèche et la saison pluvieuse. C'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, il peut arriver des moments où on n'a pas d'argent. Il peut arriver également les mois où on a de l'argent, mais si on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens. Ce n'est pas le fait d'aller se tuer qui constitue la solution. Donc je crois qu'il faudrait que les uns et les autres puissent se ressaisir. C'est vrai que nous traversons des moments un peu difficiles, mais il ne faudrait pas que cette souffrance-là nous conduise à la mort, mais plutôt ce que nous sommes en train de traverser comme train-train, que cela puisse nous servir également de leçon pour que nous puissions effectivement voir mieux, faire mieux, pour pouvoir supporter effectivement les charges. Une fois encore, je voudrais demander à tous nos compatriotes que la solution, ce n'est pas le suicide. Pas du tout. Il ne faut pas se suicider lorsque ça ne va pas.
D'accord. La solution n'est pas le suicide. Vous avez bien fait, même d'ailleurs, de présenter aussi les condoléances à notre confrère Didier Assogba, qui n'est pas avec nous ce matin et qui a perdu sa maman. Et l'information, nous l'avons appris dans ce week-end. Et c'est toute l'émission, toute l'équipe, alors de Club de la Presse, qui présente ses sincères condoléances à notre confrère Didier Assogba. Gosson Ketomania, bonjour.
Bonjour, Pascal. Aux auditeurs et auditrices de Canal FM, j'adresse mes salutations, plus spécialement aux lecteurs, fidèles lecteurs de Liberté. Je passe par ce canal aussi pour dire merci à toute l'équipe de Liberté. Je n'en suis pas le directeur, mais juste un journaliste lambda. Mais c'est ensemble que chaque jour ou chaque semaine, malgré la situation, nous trimons pour sortir de quoi agrémenter, de quoi satisfaire les lecteurs. Donc, ils trouvent tous ici nos encouragements.
Justement, nos encouragements et à tous ceux qui nous suivent aussi, puisque déjà à partir de midi, nous allons leur donner la parole. Ils vont s'exprimer, ils vont participer à ce débat avec nous. Nous commençons ce débat avec ce sujet, Gosson. Ce sujet, vous l'avez évoqué sûrement à la une à l'heure de votre journal. Je l'évoquais aussi dans déjà mon mot introductif. C'est ce rapport de contrôle de l'inspection générale d'État. Et vous écrivez rapport de contrôle de IGE, la TVT épinglée, NS, directeur sommé de reverser le trop perçu, mutation d'une équipe impliquée dans des malversations. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement à la TVT, Gosson?
Je ne sais pas si tout à l'heure, quand tu parlais, Uriel a voulu faire une observation. Je ne sais pas si il voudra le faire avant que je n'aborde le sujet.
Il est le commissaire de l'émission.
D'accord. Merci. C'est d'abord ma surprise. Parce que ce matin, particulièrement, tu as changé la procédure. Je ne sais pas si c'est par le noir que tu as porté.
Et ça a été très élégant.
Effectivement.
Mais merci beaucoup.
Que tu as été très inspiré. Mais quand tu as lancé le sujet, je dis, mais qu'est-ce qui va se passer?
Non, mais depuis pratiquement le jeudi, nous avons commencé quand même pas à faire autrement.
Innover.
Oui, innover, c'est important. On commence par un sujet très de l'actualité. Oui. Et pour introduire même d'ailleurs cette émission Club de la Presse.
C'est tout à votre honneur. Au sujet de la TVT, la mère des télés, ou la grand-mère, ce n'est pas Liberté. Mais c'est bien l'inspection générale d'État qui est logée à la présidence qui a fait le boulot. Sans encore rentrer dans les détails, nous, personnellement, aurions aimé que ce même travail soit fait avant même le directeur qui est épinglé dans le rapport. En ce sens que c'est ce directeur qui est exposé. Mais de par les informations que nous avons eues, son prédécesseur n'était pas l'ange, ou je ne sais comment le qualifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand la lune est sortie, il y a des agents qui ont réagi pour faire comprendre que, enfin, seulement, il manque quelque chose. En ce sens que ils nous apprennent que pendant 12 ans ou 14 ans, ce qui devait revenir aux agents était devenu invisible. J'ai appelé les ristournes. Il paraît que les recettes que la Radio Lomé et la TVT font, en fin d'année, l'entité reverse une partie aux agents de la TVT et de la Radio Lomé. Mais pendant tout le temps que je viens de citer, ils n'ont plus vu la couleur de ces ristournes. Il a fallu que ce soit le nouveau directeur qui a été épinglé là pour que ils reprennent la perception des ristournes. Donc c'est pour dire que si après ce rapport, l'IGE peut faire un rétropédalage pour refouler dans les méandres de la TVT, ce ne serait que équité ou justice sociale. Maintenant, pour revenir au sujet, comme je l'ai déjà dit, c'est l'inspection générale d'État qui, malgré le retard accusé dans la libération des fonds, a alloué, en ce sens que ces fonds ont été libérés tardivement. Autrement, ce ne sont pas seulement deux entités sur lesquelles allaient porter les rapports de contrôle. Mais, quand cela ne tienne, ils ont fait leur part et ont produit deux rapports, dont celui sur la TVT, où il est indiqué que l'ex-directeur avait plus que perçu ce qu'il devrait percevoir à concurrence de 14 millions de poussières. Et donc là, il lui est enjoint de reverser cela. Et d'après nos informations, l'homme serait en train de s'exécuter. C'est tant mieux. Et pour les cinq agents dont nous avons listé les noms, pas nous, mais dont l'IGE a listé les noms, c'est comme ils ont monté à la TVT une forme de réseau pour faire mettre basse sur certaines recettes et monter des systèmes qui font du mal aux recettes de la télévision togolaise. Donc, si l'inspection générale d'État, qui est une institution du gouvernement ou alors de l'État togolais, a pu faire ce travail sur un média d'État, on ne peut que leur dire bravo. En ce temps où, dans quelques semaines, nous allons fêter la journée de la lutte contre la corruption, ce n'est qu'une bonne chose. Mais l'idéal serait que, et les auditeurs, et les lecteurs, les fidèles lecteurs, accourent pour faire de cette parution des petits pains.
D'accord, ça se comprend. C'est Gosson qui parle, Gosson de Liberté qui parle, ça se comprend, oui. Pour en savoir plus, il est très important d'aller acheter le journal Liberté pour lire le dossier complet, même d'ailleurs sur cette question alors de malversation financière à la TVT. Alors, Urel, quand on apprend que déjà une institution de l'État, il y a de telles actions ou de telles pratiques qui sont dans une institution alors de l'État, est-ce qu'il n'est pas important qu'aujourd'hui le procureur de la République puisse se saisir de cette affaire et pour que quand il y aura sanction, que c'est les contrevenants alors soient sanctionnés?
Non, Pascal, je ne crois pas que ce soit opportun à l'instant du dossier. Je n'ai pas la maîtrise du dossier, mais j'ai été très heureux de lire la une du journal parce que j'ai toujours félicité cette institution qu'est l'inspection générale de l'État, c'est ça?
Oui.
Voilà, IGE.
IGE.
C'est une inspection qui fait un très bon boulot parce que je sais ce qu'ils font et il n'y a pas une société, une structure de l'État qui soit épargnée. Cette inspection fait son boulot et à la fin, elle fait des recommandations. Donc, je pense que à cet instant, le procureur ne peut pas s'auto-saisir parce que le dossier est en cours de traitement. C'est peut-être lorsque les mises en cause refusent de s'exécuter que là, ça prendra une autre forme. Et ça reviendra toujours à l'inspection puisque l'inspection a son instance de compte-rendu. Elle fait un très bon boulot. Sur le cas de la télévision nationale, je pense que la télévision nationale, pour les peu de fois où j'ai eu l'honneur d'organiser des activités qui m'ont amené à les inviter, parce que vous adressez un courrier à notre ministre de Tutelle, et c'est la ministre qui introduit le courrier là-bas, et l'équipe de reportage arrive. Mais j'ai pu comprendre que c'est une boîte qui fait de l'argent. Énormément de l'argent, parce que par exemple Figurez-vous, vous avez un événement, vous invitez, ils viennent. Mais il faut payer 200 000 pour que votre élément passe dans le journal. Donc ça veut dire que tous les éléments que nous suivons, par édition, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'organise jusqu'à des gens aient la possibilité de mettre en place un réseau pour faire passer certains fonds qui échappent au contrôle des finances. Là, c'est vraiment génial. Ce sont des génies. Si vraiment c'est avéré, moi je les appelle des génies. Tout simplement des génies.
Parce que là, au sens propre du mot, c'est ça.
Oui. Non, au sens propre du mot, oui. Au regard des reçus, des factures qu'on vous adresse, et tout, moi, si on me disait que cette procédure a encore des insuffisances jusqu'à ce que, c'est vrai que le montant que vous avez cité, bon, moi, je pensais qu'on parle des milliards, hein, vous avez parlé de 12 millions.
Bon, 14.
14 millions.
Oui.
Bon, si c'est ça, nous-mêmes, on peut vous aider à poursuivre des gens qui ont voulu plus que 14 millions. Donc, là, c'est formidable quand les gens arrivent à mettre en place ce type de réseau et ils contournent la procédure normale des finances dans une boîte. Vivement que les concernés, je précise bien, si le dossier est avéré, vivement que les concernés puissent s'exécuter pour le bien du pays, parce que 14 millions, je vais voir un peu. Vous savez, dans mon village, il n'y a pas... Non, il n'y a pas le forage. Je pense que si on prend 6 millions dans 14 millions, on peut réaliser un forage. Et le tronçon qui mène là-bas, l'État peut augmenter pour l'arranger. Ça ferait du bien aux populations. 14 millions, c'est de l'argent en tout cas.
Ça, c'est de l'argent, oui. En tout cas. Jacques, c'est déjà quand on prend ces malversations au sein de la TVT, peut-être d'aucuns diront que quand on fouillera aussi dans les autres institutions, on retrouvera d'autres choses également, comme corruption dans ces institutions.
Bon, Pascal, peut-être que je peux vous décevoir par rapport à ce que je vais dire. Vous savez, c'est une masturbation. Je dis peut-être que je peux choquer les gens. Mais moi, je qualifie ça d'une masturbation.
Masturbation, quoi, oui. Intellectuelle
ou comment? Écoutez, vous savez combien a coûté l'administration de la TVT? Vous vous rappelez? Au lancement officiel, quand, je crois que c'était l'ancien Premier ministre Humbo qui avait lancé ce projet.
Tout à fait.
Jusqu'à la construction du siège de la TVT. Est-ce que cela a été fait jusqu'à aujourd'hui? Vous avez eu les comptes où? L'argent qui a été débloqué, l'argent est passé où? Où est le matériel, l'équipement qu'on avait commandé? Tout est passé où? Et on nous dit aujourd'hui que 14 millions. Et vous applaudissez?
Non,
je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, ça fait quand même honte et mal qu'on dépense des milliards et qu'on ne dise rien. Et finalement, en région, on dit que quelqu'un, parce qu'il a géré la TVT, et puis a géré la TVT, ça fait combien d'années? Je ne sais pas. On nous parle de 14 millions, et puis bon, on dit non, que je ne suis pas contre qu'ils viennent rembourser. Mais il y a des choses quand même qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses. L'eau a beaucoup coulé à la TVT, au niveau de la construction et de l'équipement, de l'animation. On sait ce qui s'est passé. Mais qu'on vienne, on n'a rien fait sur ce sujet. Et qu'on dise qu'il peut y gérer, il faut qu'il rembourse 14
peut-être
millions.
Que c'est un début.
Vous avez 14 millions par rapport à quelqu'un. Mais ça, c'est l'argent du cacahuète, d'un enfant peut-être, d'un baron. C'est vrai que on l'a dit de rembourser. Comme moi, je ne maîtrise pas tout le dossier. Comme Gorson a dit qu'il a commencé par rembourser, c'est une bonne chose. Mais il faut reconnaître que il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur effectivement la TVT. Si Uriel disait tout à l'heure qu'il est étonné que malgré le dispositif qu'on continue par encore détourner, il faut reconnaître que c'est après quand ça s'est passé qu'on a mis maintenant ce dispositif dont tu parles. Voilà, c'est ça. Avant, il n'y avait pas ce dispositif. Parce que quand vous prenez toute la ligne, tous ceux qui étaient impliqués dans ce que Gorson a cité, on les a tous mutés. Donc, c'est ce qui s'est réellement passé. Mais ce que moi j'ai dit, je suis contre effectivement le vol, mais ce qu'il faut reconnaître, et que n'a fait que prendre la graine du maïs. Vous comprenez? Mais il y en a qui ont une papaye dans leur gorge qu'il faut faire sortir. En fait, c'est ça. Moi, je crois que quelque part, si on veut assainir effectivement la boîte, qu'on remonte sur ce qui s'est passé. Ce qu'on avait financé pour qu'on construise le siège et que la TVT devienne effectivement une télévision nationale, il faut reconnaître. Il faut faire effectivement, il faut mener ces enquêtes et voir ce qu'il faut faire. Quand vous prenez tout le personnel qui est là-bas, Pascal, mais quand vous les voyez, mais ça fait quand même pitié que les journalistes, eux ou bien elles-mêmes, c'est, je ne sais pas si ils ont ou bien elles ont bien une prime pour la biomasse et tout, mais quand vous comparez nos journalistes de la TVT aux journalistes, par exemple, de la RTI, mais c'est le jour et la nuit. Même la chaîne du Sénégal, c'est le jour et la nuit quand vous voyez leur habillement. Donc je crois que quelque part, si on veut aider effectivement nos confrères, aider nos consoeurs à la TVT à mieux faire, c'est sur ces choses-là qu'il faut toucher. Et ça va aider effectivement nos journalistes à mieux faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec ce rapport, je ne suis pas contre, mais il faut reconnaître que la plaie est tellement béante.
D'accord. Oui, Gosson, Jacques le dit, la plaie est tellement béante, parce qu'on se souvient, déjà même jusqu'au temps du ministre Dimoré, il y avait ce lancement, même d'ailleurs, des travaux du siège de la TVT aussi au niveau de GTA. Mais il y a des ministres de communication qui sont passés. Il y a Madame Germaine Kumeloanate. Il y a beaucoup de ministres qui sont passés. Mais finalement, c'est comme si rien n'est fait. Le bâtiment est laissé de l'autre côté. Et après tout, nous avons appris, même d'ailleurs, qu'il y a la Chine qui a aidé également à ce qu'on rénove les bâtiments au niveau alors de la TVT ici à Niekonakwe. Mais finalement. Et on a le droit alors de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe et que finalement il n'y a pas eu cette délocalisation, il n'y a pas eu cette construction même du siège alors de la TVT.
Ben Pascal, excuse-moi de le dire et que les confrères aussi m'en excusent, il se trouve que non seulement Liberté ne pourra pas tout embrasser, mais en plus les confrères ou nos confrères doivent s'interroger sur l'existence même de nos organes de presse. Est-ce pour accompagner l'autorité à travers les communiqués ou alors est-ce pour faire un travail de veille pour Liberté et pour tout organe? L'information ne tombe jamais du ciel. C'est toujours par des sources que ça se déclenche. Donc, si à notre niveau, il n'y a pas une source qui nous met la puce à l'oreille pour nous dire « Ah, les amis, en vous j'ai confiance. Voilà, voilà, voilà ce que j'ai appris. » Essayez d'approfondir ça. Convenez que seul, on ne pourra rien. C'est tout comme la Apusia qui, bien qu'elle soit dotée de certains moyens, réalise qu'il faut accompagner, qu'il faut se faire accompagner par les médias et la société civile pour venir à bout de la gangrène qu'est la corruption. Donc, je suis d'avis pour ce que dit Jacques, en ce sens que on a l'impression avec ce rapport que c'est juste les menus fruitains mais qu'on est en train de poursuivre, mais que les gros poissons sont passés à travers les mailles. Mais alors, Liberté attend qu'on la mette sur des pistes probantes pour qu'elle fasse sa part. Autrement, nous sommes réceptifs aux critiques, mais seul, on ne pourra rien.
D'accord, ça se comprend. Vous n'avez pas aussi les informations nécessaires sur cette question alors du nouveau siège, alors de la TVT. Alors Udel, je ne sais pas si à votre niveau, vous avez quand même des informations sur cette question alors de nouveau siège alors de la TVT et puisque ça a été annoncé depuis, mais finalement le bâtiment est resté inachevé au niveau alors de GTA, pas loin de l'ETR, où il siège alors de l'ETR, mais rien n'est fait et rien n'est dit.
Non, vous savez, ce sont deux sujets différents. Hein. C'est deux sujets différents. Je pense que le rapport fourni par l'inspection générale d'État s'est plus penché sur les fonds issus du fonctionnement de la TVT. C'est-à-dire que les ressources produites par la télévision nationale. Donc, c'est différent de ce que vous abordez comme sujet parce que même s'il y a construction d'un siège pour la télévision nationale, je pense que l'autorité contractante et même l'autorité de veille de suivi, ce n'est pas la télévision nationale, mais c'est le ministère des Travaux publics. Vous savez, on peut vouloir construire un bâtiment pour la télévision nationale. Ce n'est pas la télévision nationale qui va le construire, mais c'est le ministère en charge des travaux publics. C'est-à-dire tout ce qui est public en termes de travaux, c'est le ministère en charge des travaux qui en a la charge. Donc, le siège, c'est vrai que ce siège dont vous parlez, il a commencé par sortir du sol avant que je ne sois à Lomé, mais en tant que journaliste, notre rôle, comme l'a défini Godson, sensibiliser, éduquer, informer, c'est cela notre rôle. Mais je voudrais d'abord rappeler que le tout dépend de votre ligne éditoriale. Quand vous avez demandé le récépissé à la HAC, qu'est-ce que vous lui avez notifié ? Votre journal est un journal d'investigation, est-ce un journal d'information générale, est-ce un journal. Donc tout ça là, on en tient compte. Mais quoi qu'on dise, dans informer, sensibiliser, éduquer, il y a lieu d'alerter, il y a lieu d'attirer l'attention du public sur ce qui est mauvais, sur ce qui est bon. Aujourd'hui, si on parle de malversation, quelle que soit ta ligne éditoriale, tu dois être en mesure de dire à la population, de dire au public que voilà tel phénomène, si vous rentrez dedans, vous pouvez vous retrouver en prison. Ça, c'est un rôle dédié à nous tous. Et là, on le comprend. Sur le fait qu'on quitte le sujet de rapport de l'IGE et au sujet des travaux non finis, inachevés, sans suite et tout, je pense que c'est une, même si c'est un déraillement, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va attirer davantage l'attention des autorités pour qu'elles essaient de voir est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire quelque chose au public qui constitue le contribuable. Parce que tout ce qu'on fait dans un pays, si les citoyens ne contribuent pas à travers le paiement des impôts, le paiement de tout ce dont on est assujetti, aucun pays ne pourra fonctionner. Même une simple société ou une simple entreprise de presse, lorsque tu ne paies pas tes taxes, tu vas subir le redressement. Ça peut aboutir même à la fermeture de ton entreprise. Donc, si nous ne payons pas, l'État ne pourra rien faire. Alors, si nous payons et l'argent ne va pas dans le contexte prévu, là, nous avons droit à l'information. Aujourd'hui, ça serait intéressant qu'à la suite de cette émission, que les autorités concernées passent ici pour nous dire, voilà, le marché était attribué à tel, le bailleur, c'était tel, l'autorité contractante, c'était tel. Voilà les raisons pour lesquelles le marché s'est arrêté à ce niveau. Et quand ça s'est arrêté, quelles sont les dispositions prises par l'État pour voir ce qui peut venir. Sinon, un bâtiment qui se trouve en l'air comme ça, au niveau chaînage, ou bien au niveau dalle, ou bien ça a été d'aller à R+1, R+2. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Ça, fallait même laisser le terrain vide. Ne même pas le toucher. Ne même pas amener une pioche. Ça serait mieux. L'argent là pouvait servir à quelque chose. Une fois encore, le sujet est un bon sujet pour attirer l'attention.
Et justement, Jacques.
Non, vous savez, je crois que, vous savez, les évêques disent souvent que on bat notre chance et si zozo. Allô? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous voyez ce rapport, mais comme on l'a dit, le gros lourd est là. sais pas si vous comprenez. Le gros lot même est là. On allait prendre seulement une infime partie pour publier le rapport. Donc, c'est pour vous dire quelque part que les compatriotes, les Togolais que nous sommes, vous savez que le Togolais est tellement, tellement sceptique sur certaines choses. Il ne faudrait pas que ça dénote comme si on avait besoin de la tête de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que les gens vont tout de suite prendre ce rapport et commencer par commenter. Les gens vont dire, mais on connaît un peu les malversations qui ont eu lieu. Prenez le cas, ça a valu même un procès contre Liberté. La route Lomé, je crois, Vaughan. Qu'est-ce qui a été fait? Et aujourd'hui, on nous parle de 14 millions. On ne nous parle pas de 14 milliards, hein. 14 millions. Je ne sais pas si vous comprenez, Pascal.
Oui.
Ce n'est pas que je suis contre le rapport. Ce n'est pas du tout contre le rapport. C'est une très bonne chose que le fait de diligenter cette enquête et qu'on puisse trouver effectivement qu'il y a eu les malversations au niveau de la gestion de M. Epé quand il est passé à la TVT. Et le fait que, selon ce que Gosson a publié, on aura appris qu'il est prêt à rembourser les 14 milliards. Les 14 millions. Voilà. Mais il faut aller au-delà de ces 14 millions de la TVT. Il y a beaucoup d'argent. Même quand vous prenez, toi et moi, Pascal, on a participé à cotiser lorsque les éperviers sont qualifiés pour la coupe je crois que c'était la coupe du monde.
La CAN,
en
2013.
Le rapport est où? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, j'ai dit quelque part, il faudrait...
Mais est-ce qu'il n'y a pas une question d'impunité aussi?
Mais c'est ce que j'ai dit. Ce qui s'est passé avec la publication de la gestion de M. Epé à la TVT, je vous dis que les Togolais, certains Togolais seront sceptiques et vous diront que c'est parce qu'on a besoin de la tête de M. Epé.
Jacques,
que
cela en ce sens, je ne peux que te soutenir.
Voilà.
Parce que le rapport, oui, parle de l'exercice 2023. Mais la TVT n'a pas été créée qu'en 2023.
Quand même.
Et les prédécesseurs de M. Epé.
Quand même.
C'est en ça que je l'ai tantôt dit. L'IGE, ce n'est pas qu'elle m'a laissé sur ma soif, mais elle doit refaire le travail si elle se veut crédible, plus crédible. Parce que, et les années antérieures, je ne veux pas citer de nom ici, mais la TVT a été gérée par des gens avant l'arrivée de celui dont vous citez le nom. Je n'aime plus citer les noms parce que je connais bien un peu notre pays. Donc, comprenez bien que avant le monsieur, la TVT existait. Mais comment était sa gestion? S'il y avait l'impunité, j'allais imiter monsieur Abbas Kabwa et dévoiler des choses sur les antennes, mais là,
d'accord.
Je risque...
D'accord, nous allons quitter le sujet. Nous allons quitter le sujet, on va s'intéresser à notre sujet. Le vendredi dernier, il y a la pose de la première pierre du centre de traitement de cancer. C'était à Gouin, et là, désormais, ça veut dire tout simplement que le Togo va disposer alors d'un centre de traitement de cancer. Et là, c'est une bonne nouvelle, puisque Méga Info, Udel, vous titrez à la une de votre journal « Centre de traitement de cancer, l'État investit dans l'humain ».
Voilà, nous le disons, et à juste titre, l'État investit dans l'humain. Ce n'est pas au sujet de tous les investissements que nous analysons pour dire « l'État investit dans l'humain ». Mettre en place un centre de traitement de cancer, je pense que c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des vies, en ce sens même que dans les propos des autorités, le jour de la pose de la première pierre, on a pu lire beaucoup de choses, on a pu lire les statistiques, les types de cancers dont souffrent les Togolais, le taux de décès et tout ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'autorité a constaté que si rien ne se fait, tous les Togolais risquent de mourir un jour d'une ou d'autres maladies. Mais le cancer, c'est un cas délicat. Et il faut saluer cette initiative tout en souhaitant que la construction, l'équipement, la disponibilité de la ressource humaine qui doit prendre en charge les cas avérés soit disponible. Sinon, franchement, ces dernières années, il y a eu trop de décès dus au cancer. Trop de décès sans exception. Il n'y a pas un riche, il n'y a pas un pauvre. Tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont été victimes de ce mal, ah oui, ça a causé un grand tort à la société. Donc aujourd'hui, nous nous disons que l'État investit dans l'humain en ne s'arrêtant pas seulement à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de traitement de cancer, mais nous sommes retournés encore en arrière pour voir les efforts de l'État dans ce sens au niveau du secteur de la santé ou surtout des maladies très difficiles à guérir. Quand vous prenez, par exemple, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA, aujourd'hui, l'État a fait un effort pour rendre gratuit l'accès aux antirétroviraux. Vous allez voir que ce n'est pas des petits fonds lorsque la personne qui vit avec le VIH-SIDA doit débourser elle-même pour se procurer de ces médicaments. Encore, ça, il faut saluer cette initiative parce que ailleurs, ça pouvait être de la discrimination parce qu'il est atteint du VIH, il faut le laisser quelque part, il faut se foutre de lui. Mais ici, on prend soin de tout le monde. C'est comme si ce n'était pas suffisant. Vous voyez, cette maladie qu'on appelle la drépanocytose, depuis qu'on a mis en place ce centre à l'entrée du CHU campus pour le suivi et l'apport des soins aux personnes vivant, souffrant de drépanocytose. Je pense que ces personnes, même aujourd'hui, il y en a plusieurs même qui vivent plus que nous. Parce qu'il y a un suivi tellement que nous qui nous disons ne pas être drépanocytaires, nous sommes souvent attaqués par des infections. Alors que ceux-là, ils sont suivis, on prend des dispositions et elles vivent mieux que nous. Donc c'est tout ça réuni qui nous amène à saluer ces initiatives-là et à féliciter. Hier, lorsque j'ai partagé la une, il y a un grand confrère autour de ce plateau qui m'a posé la question que uniquement pour ça, nous saluons les initiatives de l'État. J'ai dit, c'est très fort. C'est très fort. Si, avec ça, au fait, en réalité, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce ne sont pas les investissements qui manquent dans le secteur de la santé. L'État fait de son mieux. Mais ce qui cause problème, c'est la ressource humaine. Soit elle est là, elle est qualifiée, et elle décide de faire autre chose des patients, ou soit elle est qualifiée, elle décide d'aller ailleurs. C'est ça en réalité. Sinon, si vous voyez toutes les initiatives, tous les hôpitaux, même l'hôpital de référence, tout ce qui a été mis en place, si ça devrait fonctionner normalement, je pense que nos peines seraient amoindries. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand vous restez, vous analysez même les hôpitaux mères et enfants. Mais je pense que c'est très bien réfléchi. Vous voyez combien de femmes ne meurent pas en voulant donner naissance. Il y en a plusieurs. Donc ça, souhaitons juste que le ministre de la Santé et de l'hygiène publique vraiment puisse prendre de vraies mesures pour que sa ressource humaine travaille pour la santé des Togolais. L'État investit. Il faut maintenant que les professionnels de la santé veille à ce que les Togolais soient en bonne santé.
D'accord. Jacques, c'est vrai qu'il y a eu la pause lors de la première pierre. Le vendredi dernier, c'était par Madame le Premier ministre et avec tout le gouvernement même en place. Et là, ça, on dira même d'ailleurs que ça pourra donner un soulagement aujourd'hui alors à ceux qui souffrent alors de cette maladie. Parce que, oui, cette maladie, le cancer, ça décime alors les populations. Mais depuis un temps, pour ce qui concerne même d'ailleurs un centre approprié, ça n'existe pas. Et pour avoir le traitement, il faut peut-être aller au Ghana ou aller dans un autre pays avant de le faire. Donc, on pourra dire que c'est un soulagement. Oui, c'est la pose de la première pierre, mais il faut quand même qu'on accélère aussi les travaux.
Non, il y a un centre quand même à Lomé.
Oui, à Madaromé.
Madaromé, quand vous prenez le centre de cancérologie d'Amadaromé, c'est un grand centre. Vous savez, les Togolais sont quand même géniaux pour aider leurs compatriotes. Et ce centre-là a été créé par les deux compatriotes pour soulager nos sœurs et nos frères qui souffrent effectivement du cancer. Vous savez, Pascal, une chose est de créer un centre, une autre chose est d'accompagner les malades. Parce que quand vous avez le cancer, Vous pouvez être milliardaire. Un jour, les fonds, les sous vont finir. Donc il faudrait aujourd'hui que... C'est vrai que l'État est en train de créer un centre. Mais il faut que l'État accompagne nos sœurs, nos frères qui sont malades dans leur traitement. En faisant quoi? Parce que l'État n'aura pas tous les moyens pour pouvoir accompagner les gens tous les jours. Il faudrait que l'État ouvre effectivement les vannes pour créer des fondations. Quand vous prenez par exemple le centre de cancérologie du Lomé, c'est un centre qui a été créé, comme je l'ai dit, par des particuliers. Mais aujourd'hui, ce centre a besoin d'être accompagné par des gens pour aider nos sœurs à se faire soigner. Vous avez parlé tout à l'heure du Ghana. C'est un centre que je connais très bien parce que j'ai souvent accompagné les gens là-bas. Quand vous allez dans ce centre, c'est parce qu'il y a eu les subventions et les gens arrivent à se traiter à moindre coût. Si à force de subventions, Pascal, je vous dis, on peut multiplier des centres dans ce pays de cancérologie. S'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a pas d'accompagnement, les choses ne pourront pas marcher. Parce que le cancer, ce n'est pas comme le palu. Où vous allez, par exemple, en pharmacie, vous pouvez acheter, par exemple, un produit de palu peut-être à 2000 ou à 3000 et repartir. Le cancer, quand vous commencez le traitement, c'est un traitement à vie. Donc je crois qu'il faudrait, c'est vrai que l'État a posé la première pierre pour la construction de ce centre. Autre chose, à ce que l'État puisse réfléchir, voir comment accompagner effectivement ses frères, accompagner ses sœurs-là dans le traitement, accompagner effectivement tous ceux qui sont malades, même les hôpitaux-là. Quand vous prenez par exemple le centre que je connais bien au Ghana, quand vous arrivez par exemple dans ce centre-là, Pascal, vous prenez la plupart des Ghanéens qui vont se faire traiter là-bas, on les prend en charge, c'est-à-dire gratuitement. C'est quand vous êtes par exemple un étranger, un Togolais ou bien une autre nationalité que vous payez. Mais si l'État peut faire cette même chose ici aux compatriotes en payant que peut-être les frais de consultation et le reste là que l'État puisse prendre en charge, ça pourra aider les gens. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est une bonne chose de poser la pierre, une bonne chose de construire le centre, mais s'il n'y a pas l'accompagnement, s'il n'y a pas le soutien de l'État pour aider ses frères, ses sœurs qui sont malades, nous serons en train de taper dans l'eau. Moi je crois qu'il faudrait que l'État puisse y réfléchir. Déjà, il y a un centre de cancérologie, comme je l'ai dit. Si l'État peut également aider ce centre-là à avoir peut-être un accompagnement, peut-être une fondation qui pourrait aider également ses compatriotes à se soigner là-bas, en attendant, je crois que ça serait également une bonne chose.
D'accord. Gosson, une chose est de poser la première pierre, mais l'autre chose, c'est de faire rapidement pour construire même d'ailleurs ce centre.
On aura beau dire, en minant liberté, oui, mais nous assumerons jusqu'au bout.
C'est l'essentiel.
Oui. Jacques vient de le dire tout à l'heure. Avant la pose de la première pierre de ce centre, il existait un autre centre.
Et ça, c'est un centre privé.
Public ou privé?
Non, privé. Un centre privé. Ah, donc,
oui. Soit.
Oui, mais c'est privé. Donc,
d'accord.
Oui.
C'est privé. Maintenant, par rapport au coût du traitement à venir, est-ce que ce serait la même situation qu'avec l'hôpital Dr Lafayette? Parce que on a crié dans notre pays comme quoi il y aura un hôpital de référence. Ça a été installé. Mais c'est à combien les coûts des soins? That is the question.
C'est sûr.
Voilà. Je quitte le secteur de la santé pour faire le comparatif entre le village de Djerekpo et le Kanfi où le centre va être construit. Jacques demandait à ce que ça soit fait rapidement. À Djerekpo, c'était le 25 avril 2024, 4 jours avant les élections. C'est toujours notre premier ministre, Victoire Dominga Dogbe, qui avait posé une première pierre pour la construction du centre des jeunes de Djerekpo. Avril, novembre. Le seul conteneur qu'on a déposé sur le terrain là, c'est ce seul conteneur qui est à ce jour, il n'y a plus de travaux. Maintenant, veut-on me faire croire que... D'abord, quand j'ai entendu pour de la première pierre, j'ai vu mon candidat, voici encore une élection à venir au Togo.
Quoi, est-ce que ça veut dire que c'est quand il y a élection, qu'on pose les premières pierres?
Aujourd'hui, Gosson dit... Pour les populations de Djerekpo, c'est parce qu'on était à 4 jours des élections. Autrement, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 7 mois sont déjà passés. Qu'est-ce qui va bloquer? Pour poser une première pierre, c'est parce qu'on est prêt à réaliser la chose. On ne va pas me dire qu'après la pose de la première pierre du centre de cancérologie, 6 mois ou 7 mois ou 8 mois vont passer avant qu'on ne commence les travaux. Non. Quand vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez pas. Mais si vous le faites, allez jusqu'au bout. Mais si vous engagez et vous rétro-pédalez, permettez que les populations fassent les interprétations qui vaillent. Je le dis, Drekpon s'était fait avoir. À ce jour, le sang des jeunes là appelle la personne qui a posé la première pierre à revenir commencer les travaux.
D'accord. Oui, mais ce que Gosson évoque, c'est un sujet sérieux. Oui. De telle enseigne que, allez, on vient, on pose la première pierre, soit d'une institution, mais par après, les travaux n'évoluent pas. Alors, on pourra dire, mais cela est dû à quoi?
Non, bon, moi, je vois l'idée de Gosson, qui est d'ailleurs intéressante, parce que je n'ose même pas lui dire ce que les gens vivent de l'autre côté. Vous imaginez, par exemple, on attribue la réalisation d'un forage à un village qui, jusqu'ici, ne consomme que l'eau des ruisseaux, c'est-à-dire où les animaux vont pour s'abreuver et après eux, les humains aussi, y vont.
Au Togo.
C'est
dans quelle localité?
On attribue la réalisation du forage à cette localité dans la région de la Kara, dans la préfecture de la Bina, canton de Boufalé. Et ceux qui sont chargés de réaliser le forage, ils jouent au malin. Ils vont, ils additionnent leur forage ailleurs. Ils font leur, c'est-à-dire que leur bitos. Ils laissent le travail de l'État. Ils utilisent les engins pour réaliser le forage aux particuliers. Et la saison des pluies arrive, ils disent que la piste qui mène au lieu de réalisation du forage n'est pas praticable. Alors, qui vous avait dit de ne pas le faire pour
mais
attendre...
Mais c'est être de mauvaise foi.
Vous voyez, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce n'est pas fait. C'est pour enchérir à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a de ces gens, si l'autorité ne décide pas de sévir, le pays ira mal à cause de ces gens-là. Le pays ira toujours mal à cause de ces gens-là. Alors qu'à la base, l'autorité fait ses efforts. Vous voyez? Maintenant, je voulais nuancer. Moi, je fais la différence entre la pose de la première pierre et le lancement des travaux. Je me dis que c'était une pierre qui a été posée. Histoire de vous dire que tôt ou tard, vous aurez un centre communautaire, vous aurez un centre culturel, vous aurez
mais
un centre...
Oui, on a besoin quand même de le faire aussi.
Non, je ne suis pas en train de justifier quelque chose. Moi, je fais mon analyse. Alors, si c'était les travaux qui étaient lancés, on vous a présenté l'entrepreneur, on vous a dit le délai d'exécution des travaux, on vous a montré l'échantillon de la structure et tout, et même jusqu'à vous dire qu'au plus tard, peut-être en novembre 2024, le chantier serait réceptionné, je comprendrais. Apparemment, ça n'a pas été dit comme ça. Apparemment, c'est la pierre qui a été posée. Donc aujourd'hui, on va attendre le lancement des travaux, on va attendre tous les détails que je viens d'énumérer. Ou bien Godson, on va attendre tout ça. On est obligé. Que moi je viens de vous énumérer,
oui.
Ça c'est un cas très objectif sur lequel même l'État peut sévir. Ça tout a été fait. Il n'y a rien qui devrait empêcher. Mais à votre niveau, vous savez, pour un forage, il n'y a pas posé de première pierre. Donc là, c'est direct. À votre niveau là, je pense que la pierre est de mer valable. Peut-être que celui qui devrait financer n'a pas encore déposé l'argent, mais ça n'annule pas la réalisation de ce centre communautaire. Ça ne l'annule pas. Le jour où on va lancer les travaux, on vous dira quand est-ce que ça prendra fin. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça.
Oui, mais voilà, pour paraphraser un président d'à côté, hein, de nous, tout récemment, qui disait que, alors, si je cite même bien sûr le pays, que le Bénin évolue sans avoir sans avoir inauguré même d'ailleurs d'avoir fait des premiers pieds. Voilà, je suis arrivé. Jacques, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'aller au concret et que de ne pas faire alors du tintamarre autour des cérémoniales?
Vous savez, Pascal, le vrai problème par rapport au pose de première pierre, vous savez, il faut fouiller même pour voir l'attribution des marchés. Comment les marchés sont attribués pour ceux qui sont censés construire, par exemple, ces centres, construire, par exemple, les routes et autres. Comment se fait l'attribution des marchés? Parce que lorsqu'on attribue le marché, vous donnez le marché à quelqu'un. Je me rappelle, je ne vais pas citer le nom pour encore susciter des problèmes. On a assisté à un lancement où on a vidé presque la plupart de tous les caterpillars du pays. Vous comprenez? Le jour du lancement, il y avait les caterpillars, il y avait tout. Quand vous voyez ce lancement, là, vous vous dites que le lendemain, le chantier sera fait.
Lancement des travaux.
Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le jour quand on a fait le lancement, et après les autorités se sont retirées, les caterpillars ont disparu aussi. Et jusqu'à présent, les travaux n'ont pas été réalisés. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui, dans notre pays, moi, je serai à la place du président, je vais cesser les lancements, les poses plutôt, de première pierre. Je vais au concret. Le lendemain, les compatriotes vont découvrir le travail qui a été fait. Vous comprenez? Au lieu de lancer, et finalement, il y a des critiques, et finalement, il n'y a pas la réalisation. Parce que, entre-temps, peut-être que Pascal a reçu le marché, Pascal a sous-traité le marché à Uriel, Uriel me sous-traite également le marché, jusqu'à ce que Gorsen ne prenne le marché, il n'y a plus rien. Et finalement, on n'arrive plus à réaliser le travail. Donc, je crois que quelque part, regardez comment les marchés sont attribués, à qui ces marchés l'ont été attribués. Et autre chose, quand on appelle les gens de venir construire, de venir faire la peau de la première pierre, en contrepartie, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le Togo va redonner à celui qui veut investir? Parce que quand on parle d'un centre de cancérologie, Pascal, excusez, c'est pas de la blague, hein? Un centre de cancérologie, c'est pas de la blague. J'ai suivi un peu les travaux du centre de cancérologie dont je vous parlais tout à l'heure, d'Amanda Homé. J'ai vu ce qui s'est passé. Et je sais ce qui endure, effectivement, ceux qui ont créé ce centre aujourd'hui là-bas. Je sais ce qu'ils endurent là-bas. Moi, je crois que je serai, par exemple, à la place de l'État. Avant de poser cette pierre, Uriel disait tout à l'heure que non, que c'est des privés. C'est vrai. C'est des privés, c'est vrai. Mais quelque part, ces privés-là sont en train de soigner nos compatriotes. Vous comprenez? Aujourd'hui, construire un centre de cancérologie est une bonne chose. Mais j'insiste toujours sur l'accompagnement qui sera fait par rapport à ce centre-là qu'on veut construire aujourd'hui. Parce que construire un centre, comme je l'ai dit, ce n'est pas des seringues. Hein? Ce n'est pas affaire de seringues. C'est affaire d'équipement. Et je sais que, comme c'est l'État, c'est vrai, on me dira que l'État a les moyens. L'État, c'est vrai, a les moyens à un moment donné. L'État n'aura plus les moyens. Donc je crois que la peau des premières pierres au Togo, à un moment donné, au lieu de poser les pierres, je crois qu'on peut changer le nom. On peut dire on pose les plastiques. Peut-être que et après on pourra revenir.
D'accord, mais merci beaucoup, Jacques. Gosson, mais pour cette question de cérémonie, c'est-à-dire on pose des pierres, est-ce qu'on ne doit pas se passer aujourd'hui alors de ces question de pose de premier pied pour aller au concret?
Toi-même, tu viens de le dire. À côté, chez nous ici, des infrastructures sortent de terre sans tambour ni trompette. Et de bouche à oreille, les Togolais se communiquent et constatent que à côté de nous, on ne voit pratiquement jamais le président ou le premier ministre. Je ne sais pas si le Bénin a un premier ministre, excusez-moi. Mais pourtant, le pays avance. qu'est-ce que nous avons à faire avec ces poses de peignées plastiques que le vent emporte juste après. Finalement, je suis tenté de d'épouser l'idée de Jacques, hein, faire en sorte que sitôt la cérémonie finie là, il y aura plus de traces de première pierre et puis la vie va continuer.
D'accord, ok. Uriel, on va quitter le sujet.
Non, il faut que je réponde à votre question.
Non, mais...
je pense ça n'a pas été répondu en réalité. Affaire de pose de première pierre. En réalité, la pose de la première pierre, en réalité, ne pose pas problème. Puisqu'il faut montrer aux partenaires financiers que ce n'est pas un projet caché. Ce n'est pas un projet caché. C'est un projet d'intérêt public. Et c'est le public même qui va contribuer à rembourser le prêt que le partenaire va nous octroyer. Et je crois bien qu'à chaque fois, par exemple, la dernière fois, j'ai vu le partenaire qui était là. Et moi, j'ai trouvé que si c'est dans ce sens, c'est objectif, c'est scientifique, c'est une bonne chose. Ne pas poser la première pierre dans un autre pays, c'est possible. Mais ici, il faut que la chose soit publique. Il faut que tout le monde sache qu'on va investir des milliards pour un projet. Moi, je ne serais même pas d'accord lorsque j'apprends par des riverains qu'on est en train de faire ceci à côté et que c'est l'État qui est en train de le faire. Je préfère même l'apprendre par un événement comme la pose de la première pierre. Mais je ne souhaite pas que la pose de la première pierre prenne de l'argent. C'est tout. Je ne voudrais pas qu'en posant la première pierre, on mobilise des gens.
Mais c'est ce qui se fait.
Non, attendez, attendez. C'est pourquoi je fais toujours la nuance. La pose de la première pierre, par exemple, Madame le Premier ministre qui est allée observer la cérémonie, elle pouvait être accompagnée par la sécurité. Et surtout que c'est à l'intérieur d'un camp militaire, poser la première pierre, et nous avons les éléments de langage par la suite. Tout ce que je ne souhaite pas, que cela n'engage pas des fonds. Ces fonds-là peuvent servir pour la suite des travaux.
D'accord. Pascal,
vous savez, je voulais m'arrêter pour vous dire ceci. Vous savez, chez nous à Dapaon, il y a un projet qu'on a réalisé. Le jour de l'inauguration, vous savez ce qui s'est passé?
Non.
Le feu président devait inaugurer l'infrastructure. Et quelqu'un a eu, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'on peut, on peut, c'est la méchanceté au fait. Il est allé fermer le robinet quelque part, au moment où le patron devait ouvrir le robinet pour que les populations puissent avoir de l'eau. Il ouvre le robinet, c'est le vent. C'est l'air seulement. L'eau n'est pas
sortie. Il n'y a pas d'eau.
Il n'y a pas d'eau. Vous savez pourquoi? C'est quelqu'un qui l'a saboté. Parce qu'il a eu quoi? Le marché. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on fait par exemple les pots des premières paires comme ça, et le marché ça ne va pas, c'est parce que quand on voit que c'est Uriel qui a pris le marché, tout de suite là vous allez voir les vautours tourner autour de Uriel. Pour dire Uriel, tu sais, je vais te vendre le ciment. Uriel, je vais te vendre les tels fer. Uriel, je vais faire ceci. Et finalement, Uriel se retrouve seul. Il n'a plus d'argent. Parce qu'il a déjà tout donné. Et finalement, ce qui était censé le livrer le matériel, les gens ont disparu dans la nature. C'est ça souvent qui crée les problèmes. Vous allez voir dans des localités, on pose des pierres, mais le marché ne marche pas.
D'accord.
Parce qu'à un moment donné, l'argent s'est volatilisé, mais celui qui a eu le marché n'a pas pu réaliser le
D'accord.
marché.
D'accord. Je voudrais qu'on finisse ce débat avec les épéviers du Togo. Et je sais que ça vous intéresse. Hier, normalement, il y a eu même un match. Mais je n'ai pas vu quand même l'engouement des Togolais autour de ce match parce que le Togo a gagné. La Guinée équatoriale, 3-0. Et vous êtes revenu, bien sûr. C'est vrai que la victoire du Togo n'a rien changé son statut. Vous écrivez phase finale. Vous voulez bien sûr parler alors de cette question, enfin des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Vous écrivez phase finale, les éperviers à jamais éliminés.
Oui, ils sont éliminés. Ils sont éliminés à jamais. Il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de probabilité. C'est-à-dire que, comme avant, on disait, si tel pays perd, si tel gagne, le Togo a la chance de. Non, ici, c'est à jamais. Ils ne vont pas participer à cette CAN courant décembre 2025, janvier 2026. Non. Nous tous, on va suivre les matchs à distance. Donc, vous avez tous vu comment ça s'est passé. On a perdu. Et c'est au dernier match, on fait 3-0. Bon, quelqu'un me dira, tu n'as pas raison de douter de ce score. Mais c'est mon droit aussi de douter. Vous ne pouvez pas nous laisser vraiment dans l'inquiétude durant toutes ces rencontres, toutes ces phases-là, des allers-retours. Et c'est au dernier match, vous faites 3-0. Mais quel est le problème au juste? Ils sont jamais éliminés. Ça fait combien de CAN?
On quatrième. Est 4.
Quatrième. Oui. Le Togo n'a pas participé. Quand il y avait, quand la CAN comptait 16 équipes, nous y étions. On participait. Même 8 équipes, le Togo y était. Même les premières CAN, 4 équipes, le Togo y était. Aujourd'hui, c'est 24 équipes. Nous n'y sommes pas. Mais vraiment, c'est aux spécialistes d'analyser et de voir à fond ce qu'il y a. S'il faut quand même prendre congé du football pour se réorganiser, ça serait bien. On prend congé, on se dit, bon, 10 ans à venir, nous n'y sommes pas. On fait autre chose avec cet argent, parce qu'il semble que c'est 2 milliards qui coulent là-bas. Nous parlons ici l'argent, tu as débuté avec l'argent. C'est 2 milliards qui coûtent là-bas. Si l'IGE peut mettre son nez, ça serait intéressant.
D'accord, ok. Jacques, c'est vrai que quand on parle alors du football aujourd'hui, on voit des Togolais qui sont totalement désintéressés par la chose. Et finalement, c'est quoi le problème?
Le problème, c'est que on n'a pas une politique de football. C'est tout. On n'a pas de politique de football. Si on a une politique de football, ça va marcher, Pascal. Regardez. Aujourd'hui, dites-moi, quand vous prenez le championnat au Togo, quelles sont les pépinières qu'on a détectées et qu'on essaie souvent de prendre cette pépinière-là pour renforcer l'équipe nationale? Il n'y en a pas. Donc je crois que si on veut aller loin, on dit on fait quoi? On menace à monter.
C'est monture.
Donc il faudrait aujourd'hui qu'on puisse développer la politique du football si on veut aller loin. Et ce n'est pas seulement le football, hein. C'est presque dans toutes les disciplines aujourd'hui dans notre pays. Si on développe ça, ça va marcher.
D'accord.
Ne pensez pas qu'à un examen, vous êtes là, vous ne voulez pas apprendre, et vous dites, non, je vais prier, Dieu va m'aider. Mon frère, quand tu vois cette composition, tu verras que du noir. Aujourd'hui, le football, il faut le développer. Si on développe, je vous dis, on va réussir.
Finalement, Nimobé Daré n'a pas pu opérer le miracle qu'on escomptait.
Son ami. Bon, qui est-ce qui lui avait demandé de réaliser un miracle et il en avait parlé?
Mais si, peut-être, on parlait des sélectionnaires, on disait, on demandait même à Claude Roy de partir, et également à Paulo Duarte, on demandait plutôt un autre entraîneur, et finalement, c'est Nimobé Daré, le compatriote qui a été choisi, on pourra quand même s'attendre à quelque chose de bon.
Oui, mais je le répète toujours, en tant que pratiquant de la matière, si je devrais coacher l'équipe nationale, les éperviers, avant la signature de mon contrat, je demanderai au moins 2 ans, au minimum 2 ans, pour qu'on n'espère pas de résultat de ma part. Parce que j'aurais commencé un travail de fond. Voilà. Pour revenir à Uriel, il disait que des gens veulent le critiquer. Je serai à tes côtés pour qu'on les affronte. Parce que quoi, mathématiquement, le Togo réaliserait un résultat si la Guinée équatoriale était tenue de gagner ou alors elle serait recalée. Mais une équipe qui est déjà qualifiée, c'est si l'entraîneur le veut, il peut choisir 11 estropiés qu'il mettra sur le terrain. Ou bien 11 éléments, peut-être que des mineurs qui n'ont pas 18 ans, ben c'est leur club, ils vont jouer, ils peuvent prendre 1000 buts. Ils seront à la CAN. Donc, c'est-à-dire que cette victoire, elle aurait sens si c'était au moment où le Togo en avait vraiment besoin. Parler de victoire pour l'honneur,
Non, ce n'est pas encore ça.
D'accord. Ok, merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs. Ils s'impatientent à participer à ce débat avec nous. C'est sur nos deux numéros 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur, allô?
Oui, allô, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien.
C'est monsieur?
C'est monsieur Nick.
Ah, monsieur Nick.
Oui.
Allez-y.
Bon, par rapport à tout ce qu'on est en train de parler, les détournements de fonds, les facturations et autres, bon, pourquoi on ne trouve pas dans d'autres pays? Là, il y a un problème. Il y a des fonctionnaires qui sont payés chaque fin de mois. Et au-delà de ça, ils ont la malice pour pouvoir soutirer l'argent de l'État. Normalement, on doit prendre les décisions très courantes par rapport à leur acte. Ça, on n'a pas besoin de parler, il faut agir. Sinon, c'est ça qui fait que le pays, là, ça ne va pas évoluer. Il y a beaucoup, dans beaucoup de domaines. Peut-être que c'est pour lui, en fait, pour d'autres, même, c'est trop. Bon, vraiment, c'est dommage. Bonne émission.
Merci, monsieur Nick, pour votre intervention. Allô?
Bonjour, Pascal.
Oui, Basile, bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais, c'est de l'exemple.
D'accord, allez-y.
Oh ben, comme je n'ai pas suivi, je vais faire une dénonce là. Votre prédécesseur, quand il veut remettre la parole, il dit, on a parlé de ci, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Est-ce que vous pouvez nous aider comme ça? Si on n'a pas suivi, mais on veut quand même poser des questions, on va pouvoir le faire.
D'accord, il n'y a pas de souci.
Bon, maintenant, pour le foot, c'est là où j'ai suivi Boston. Il fallait que ce n'est pas... qu'on avait besoin de ça, c'est comme ça que j'ai entendu. Ça veut dire que vous avez parlé au moins du foot.
Effectivement, nous avons parlé du foot. C'est avec cela que nous avons clos nos débats.
Oui, oui. Bon, ben, on a gagné. Pourquoi, comme c'est le match sans grands enjeux, c'est pas grand... en jeu, et on a gagné. Quand il y avait un jeu, on a pas gagné un seul match. Alors, je ne comprends pas. Ça veut dire que ce que nous autres, on supputait que le pays va tellement mal, qu'il serait inconcevable, que le foot, lui, par un miracle comme ça marche. Si on peut nous entendre et faire quelque chose, pour que le pays marche. On ne peut pas comme ça, de là, du fond, gérer un pays, puis c'est chaque matin, si tout le monde va crier dans tous les coins, que ça ne va pas bien. C'est tout comme de nous converser sur le dos du canard. Et on est là, on se regarde seulement. Tout comme quelqu'un, lui, ou bien d'autres, titres français de ce pays, et quand vous parlez, ils n'ont rien à tirer. Non, non, mais ils pensent qu'ils n'ont qu'à revoir ça.
D'accord, merci, Basile, pour votre intervention. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, je vais bien, c'est Yannick Dagoué.
Ah, monsieur Yannick Dagoué, allez-y.
Oui, moi, je veux intervenir concernant les premières pierres. Vous avez parlé de ça en oubliant la première pierre posée pour l'université de Dacha. On ne sait pas où nous en sommes. Et de deux, je ne sais pas si nos gouvernants ne veulent pas voir leur population sourire. Parce que chaque fois, ils veulent nous voir les mines serrées. Donc, je veux aussi aller. C'est dans l'optique de Covid, on a augmenté le péage après casser nos conteneurs parce que l'État. Le président avait dit que les jeunes n'ont qu'à investir dans l'entrepreneuriat. Mais jusqu'alors, ils en cassent, ben, on ne voit rien changer. Or, quand on veut parler du Togo, c'est le Togo. Mais le Bénin casse et ils font des routes. Ils arrangent le pays. même si Talon prenait le Togo, je sais qu'il va mettre à l'aller-retour d'ici 50 ans. Merci.
Merci Yannick pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Votre nom c'est?
C'est Ouyao depuis Noépé.
Monsieur Ouyao depuis Noépé, allez-y.
Monsieur le journaliste, vous avez déjà dit quand la liste était sortie pour les éperviers. Et j'ai dit ici, sur votre chaîne ici, que si le coach doit me comprendre, il va sortir avec un bon résultat. S'il ne me comprend pas, il va sortir par la petite porte. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit, je l'ai parlé d'un joueur. Si moi, permettez-moi de vous dire ça. Quand on parle de Fodo là-bas et les journalistes, vous ne voulez pas qu'on parle de Fodo là-bas. Je ne sais pas ce que Fodo là-bas donne aux journalistes. Moi, j'ai intervenu sur la radio Lomé. Ils m'ont coupé parce que j'ai parlé de Fodo là-bas. Fodo là-bas ne donne rien à ce pays-là. Il ne donne rien à ce pays-là. Donc, si le coach fait dans sa liste prochaine, là, il n'a qu'à écarter l'enfant carrément. Parce que l'enfant là-bas, je suis un supporter. Chaque jour, je m'en vais au terrain là-bas. Je vois ce que l'enfant là fournit.
Mais il ne
donne rien. Avant, les Adebayor, les Tchangaï, eux, ils jouaient, ils n'ont pas la tête, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de l'argent. Ils jouaient, ils mouillaient le maillot pour le peuple togolais.
Monsieur Yao.
Ils mouillaient le maillot. Mais les enfants là, ils sont venus, c'est l'argent, ils cherchent. Ils cherchent l'argent. Donc, le coach n'a qu'à savoir que dans sa liste prochaine là, Fodo là-bas, s'il vient là-bas, il veut nous tuer carrément.
Monsieur Yao.
Merci, bonne émission à vous.
Allô? Ah, il est parti. Oui, monsieur Yao, c'est pour vous demander, qu'est-ce que Fodo là-bas vous a fait?
Non. Il ne mouille pas le maillot. Il ne mouille pas le maillot. Ça, je vous dis. Laissez-le dire. Il marque là. Regardez l'enfant qu'on a mis hier. Hier, l'enfant qu'on a mis là, j'ai encore quoi de l'or là. Mais il a mouillé le maillot. Il pouvait lui seul, il pouvait marquer jusqu'à 5 buts parce qu'il voulait que son coquité marque sa cause à lui là. Il voulait donner à l'autre. Kevin Dinké. Donc, l'enfant a mouillé le maillot. Kevin Dinké aussi mouille le maillot. Il faut que je vous dise la vérité.
D'accord, allez, c'est compris. Merci pour votre intervention. Allô?
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Nyamavo, chef.
Non, allez-y.
Salut le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Oui, la pause des premières terres, depuis un moment, j'ai trouvé une conclusion chez moi. Quoique c'est une façon de recenser les domaines de l'État. L'État veut nous dire que ici, on va construire une usine de production d'engrais, un hôpital. Bon, ça peut être d'ici 2045. Vous connaissez leur programme. C'est à long terme. Donc, ils ont posé, c'est un domaine administratif. Peut-être ça serait fait ou pas. On ne sait pas à quel mandat ils vont le faire. Concernant le football, pour finir ici, d'abord, quand j'ai écouté Ferdinand ici sur les réseaux sociaux, si c'est vrai, mais est-ce qu'on a besoin de poser, comme le disait un journaliste là-bas, ils n'ont pas construit, on va les féliciter. Si en 2023, les gens ont importé des champagnes à plus de 5 900 000 euros, près de 3 milliards 300 et quelques mille millions, mais les champagnes seulement, champagne de cognac, ça peut faire au moins 10 canettes. Et qui boit ces champagnes? Et on nous présente seulement les pots des premières pierres. Pour le sport, j'ai dit, si un neutre est mal couvert, n'attendons pas à l'explosion des poussins. C'est profond. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Donc le football est malade depuis quelque part. Et l'entraîneur est venu, il a mis sa compétence. Bon, depuis que les expatriés venaient, ils n'ont pas encore fait aussi des victoires comme il a fait. Hein. Même si on a échoué, il a fait au moins une victoire et deux nuls. Il faut les féliciter, l'encourager. S'il n'est pas entraîné au Togo, il peut être entraîné ailleurs. Encouragez-le. C'est un projet qu'on lui donne au moins 2 ans pour qu'on puisse voir quel football il peut nous présenter. Bonne
merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Nous avons ce petit temps de recevoir encore notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, ça va, je salue tous les journalistes venus.
C'est Évangéliste Senghor.
Voilà. Bon, je voudrais interpeller le premier responsable de la nation. Je le dis toujours, mon grand frère, Orya Sindé. À faire quoi? Celui-là qui écoute les informations, qui capte de la presse, et il le fait le fier, c'est-à-dire le compte rendu dans la soirée, et il n'a qu'à me dire que l'évangéliste Senghor est en train de lui dire de sortir pour parler à ses enfants. Parce que le Togo, ça ne va pas. Rien ne bouge. Mais le papa de la maison est incapable quand même de parler à ses enfants pour atténuer la situation. Monsieur le journaliste, quand vous sortez, vous voyez comment et tout le monde est gris. Rien ne bouge. Mais voilà maintenant que ce président-là, notre président qui est là, il ne dit rien. Mais je voudrais poser la question, savoir s'il est content de la situation dans laquelle nous sommes. Ou comment? Bon, pour terminer, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, où il y a certains prélèvements sur les sortes des gens et autres là. Bon, vous savez, c'est pour vous dire, selon mes analyses, l'autre, M. Tchobionata dit à des institutions bancaires de prendre de l'argent, de retirer la somme. Et même, bon, ils disent que c'est le dossier, c'est l'effet de dossier qui les a échappés. Mais ils ne vont pas quand même revenir en arrière. Moi, je voudrais vraiment interpeller toutes ces banques-là de retourner l'argent qu'ils ont prélevé sur le sort des gens. S'il vous plaît, nous n'allons pas vivre dans un pays comme ça. Tchobionata n'a rien fait, il n'a rien dit. Merci beaucoup.
Je pense même d'ailleurs qu'il y a un communiqué de l'OTR sur la question. L'OTR a fait sortir un communiqué sur la question. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Uriel, votre réaction?
Non, moi, je vais réagir rapidement par rapport à cet auditeur qui parlait de pose de la des premières pierres. Et il a cité la pose de la pierre pour la construction de l'université de Dacha, où il disait que ça n'a pas encore pris corps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et on a beaucoup d'éclairage là-dessus. Et à ce jour, le site a juste été remis aux entreprises la semaine dernière. Donc, depuis la décision de création de l'université, il faut définir le terrain, le sécuriser et maintenant remettre le site pour la réalisation de l'université. Donc, c'est dit que le processus est en cours et rien n'a été suspendu. Et je pense bien que ça c'est bien. Ça prouve que les gens écoutent et les gens réagissent.
Tout à fait. D'accord. Oui, mais Jacques?
Bon, je crois que Pascal, comme on l'a si bien dit, les uns et les autres, il faudrait que le gouvernement puisse se démarquer sur le doute que les compatriotes ont par rapport à la pose des premières pierres et que les travaux ne continuent pas et qui n'ont pas d'issue après la pose de la première pierre. Donc je crois que il faut que le gouvernement relève ce défi, que les compatriotes comprennent que ils sont là, les gouvernants là sont là pour nous et c'est pour notre bonheur qu'ils sont là. Donc ils essaient de satisfaire les besoins basiques des populations que nous sommes en posant effectivement ces pierres là et que les édifices, effectivement, soient construits pour le bonheur de nos populations.
Jacques, je reste avec toi pour ta note de fin d'émission.
Je voulais donner 9 sur 10 à Madame Soukou Yolande. Le Premier ministre a visité ses installations, je crois que c'était samedi ou vendredi passé.
Jeudi.
C'est jeudi. Voilà, vraiment, félicitations Madame Soukou Yolande pour le travail que vous êtes en train de faire. Elle est revenue du Canada, elle a essayé de construire un centre où on essaie de confectionner les blouses et tout. J'ai vu l'image, vraiment c'était très bien. D'accord. Si tous les compatriotes peuvent faire des choses comme ça, ce serait bon.
D'accord, merci. Uday, je reviens à toi pour ta note de fin d'émission.
Alors moi j'attribue une note à un grand frère qui vient d'être élu président de l'AS Bina. Il prend les rênes de ce club-là, et le connaissant, son dynamisme, sa disponibilité, sa fraîcheur, je n'en doute pas, je sais qu'il va faire un bon boulot. Je vais parler de Passiwe Ezo, que vous connaissez très bien. Il est honorable député à l'Assemblée nationale.
La note, c'est combien?
Pardon, la note, non, il a 9 sur 10.
9 sur 10.
9 sur 10 mmh. par rapport à...
Mais c'est objectif.
Objectif, voilà. D'accord. C'est objectif.
Voilà. Oui, Gosson.
Oui. Moi, c'est par rapport à cet auditeur qui demandait de réelles sanctions à l'endroit des agents de l'État qui sont des salariés. Je l'ai souvent déploré parce que la plupart d'entre eux, une fois qu'ils sont dans la fonction publique, estiment que seule la retraite pourrait leur en faire partir. Quel que soit ce qu'ils vont commettre comme faute, il faut que ça cesse. Je saisis l'opportunité pour louer la promptitude du ministère de l'économie et des finances tout face à ce communiqué d'arnaque, parce que nous avons encore en mémoire les sombres périodes de trading.
Voilà. Alors, justement, vous faites bien d'évoquer même le sujet. Je voudrais même terminer cette émission en lisant ce communiqué du ministère de l'économie et des finances. Depuis quelques jours, un prétendu message attribué au ministère de l'économie et des finances propose des cessions d'investissement en ligne sur les crypto-monnaies aux citoyens. Il s'agit d'une tentative grossière d'escroquerie et le ministère dément formellement être à l'origine de cette initiative. Nous rappelons au public que les communications du ministère se font à travers les voies officielles, dont notamment les médias publics. Nous appelons la population à la vigilance et mettons en garde les auteurs de tels documents qu'ils s'exposent à la rigueur des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Le ministère réitère son engagement à protéger les citoyens contre ces pratiques et reste disponible pour toute information complémentaire. Et c'est un communiqué du ministère de l'économie et des finances. Et c'est sur ce communiqué que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Uriel, merci à toi. Jacques, merci. Merci Gosson, merci à toi. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour intervenir dans cette émission. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akuta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.